Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au festival Jardin d'hiver. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici au quatrième étage de la bibliothèque pour cette rencontre superbe. Nous allons vivre une heure ensemble avec Marie Charelle autour de son livre « La fille de Lake Placid », un roman paru aux éditions Les Pérégrines, dont la collection Les Audacieuses. Je vais m'en sortir. Eh bien, je voulais, vous savez, on va parler de musique, on va parler de stars de la musique, et je voulais une entrée pour Marie digne de ce nom. Quand on rentre sur scène, tout le monde applaudit, etc. Bon, j'ai essayé de négocier, je n'ai pas obtenu ce que je voulais avec Marie, mais quand même, je pense que vous pouvez nous faire des beaux applaudissements pour qu'on sente bien la chaleur de la salle et qu'on se rattrape un petit peu dans l'entrée de l'artiste. Parce que c'est ça aussi devenir artiste, hein, c'est accueillir les applaudissements du public. Bonjour Marie.
Bonjour et merci à tous d'être là aujourd'hui, nombreux, ça fait chaud au cœur.
Eh bien, nous aussi, ça fait chaud au cœur. Vous êtes une écrivaine, une journaliste, mais une écrivaine qui, depuis 2010 maintenant, non ? Ouais, ça fait déjà un moment, nous propose des lectures qui sont éclectiques à la fois, mais aussi reconnues, avec notamment le livre « Mangeur de nuit », qui a eu les prix « Étonnant voyageur », entre autres. Nous vous connaissons aussi au travers de votre essai « Qui a peur des vieilles ?» Est-ce que quelqu'un a peur des vieilles ici ? Ça tombe bien. Et puis un roman, Les Danseurs de l'Aube, pour ne pas tous les citer. Aujourd'hui, nous sommes ensemble donc, depuis le 5 janvier. Alors, c'est vraiment tout frais. Hein. Il n'a pas un mois. Votre livre, La fille de Lake Placid, est sur les étals. Et d'ailleurs, en bas également. Hein. On va parler de votre livre, bien sûr, mais tout d'abord, le livre raconte de manière à la fois biographique, mais surtout fictionnelle, hein, c'est un roman, cette artiste, Lana Del Rey, comment elle devient artiste, on va dire. Pourquoi Lana Del Rey ?
Alors, tout commence avec les Pérégrines, qui est cette maison d'édition qui a lancé Les Audacieuses, qui est une collection dont l'idée est de visiter par le roman une figure de femme audacieuse. Tout le monde a des collections sur les femmes inspirantes aujourd'hui, mais là, l'idée, c'était vraiment de s'en emparer par le roman. Et quand les Pérégrines m'en ont parlé, j'étais en train de lire le recueil de poésie de Lana Del Rey, avec grande surprise, parce que je connais sa musique comme beaucoup de monde, mais sans être particulièrement... sans avoir suivi tous ses albums, toute sa carrière, mais j'ai été frappée, habitée par sa poésie. Je me dis, tiens, pour une musicienne pop star connue, publier de la poésie, c'est pas rien quand même. C'est pas forcément très grand public, la poésie. Il y a quelque chose de l'audace là-dedans. Et en regardant un petit peu, je suis tombée sur le portrait que Joan Baez a peint d'elle, sachant que Joan Baez est peintre aujourd'hui, puisqu'elle a arrêté de chanter, mais elle ne peint que des portraits de personnes qu'elle aime. Donc je me dis, tiens, il s'est passé quelque chose entre ces deux femmes. C'est pas rien. A priori, on pourrait imaginer qu'elles sont opposées, qu'elles n'ont rien à voir, et il s'est passé quelque chose entre elles. Et en plus, Joan Baez a chanté sur scène avec Lana Del Rey. Donc là, je me suis dit, là, ça y est, la romancière est excitée par tous ces faits, et cette rencontre, la poésie, ces deux artistes. Et donc voilà, donc j'aurais dit, bien, finalement, je ne vais pas en faire une, je vais en faire deux.
Et la maison d'édition, elle a accueilli ce choix de votre part, de quelle manière ?
Alors, il y a plusieurs éditrices, il n'y a que des femmes dans cette maison d'édition. Il y en a une qui était très sceptique, mais qui ne l'a pas dit, et l'autre qui était très enthousiaste. Donc après, l'autre sceptique m'a dit, quand tu m'as dit Lana Del Rey, je me suis dit, je ne vois pas trop. Elle a pensé à des figures plus classiques, et puis finalement, elles ont aimé le livre, donc voilà.
Dans ce livre, on va découvrir donc Lana Del Rey par... cette vision de Marie Charelle et aussi cette rencontre avec Joan Baez, mais pas que, on va découvrir plein de choses et on va aussi encore une fois découvrir votre écriture très sensible et ô combien poétique dans ce livre en particulier pour accompagner la sensibilité de l'artiste. Je me permets, si vous voulez bien, de dire quelques phrases. Évidemment, on va tenter de ne pas spoiler le livre et il faut quand même vous réserver le plaisir de la découverte par vous-même de toutes ces belles phrases qui sont écrites, mais tout de même, on va rentrer un peu dans le livre durant cette heure que nous avons ensemble. Et je notais, alors j'ai dit que c'est un texte composé de situations réelles et de fiction qui nous permet de suivre une femme en train de grandir et emprunter le chemin pour devenir artiste. Dès le début du livre, nous sommes invités à percevoir chez Lana Del Rey ou Elizabeth ou Lizzie une matière vivante qui attend le moment pour jaillir. La jeune fille qui devient femme en même temps qu'artiste est fascinante et fascinée à son tour par la poésie, la musique, son pays. Le côté sombre de Lana Del Rey est un danger permanent, sa mélancolie et l'alcool en particulier. Personnage complexe, solaire, parfois fantasque, souvent sensuel, l'artiste fait son chemin, réalise ses rêves, par exemple en rencontrant son idole Joan Baez. Alors, est-ce que vous trouvez que ma petite introduction fait honneur à ce que
tout
vous avez
fait.
Écrit ?
Merci beaucoup.
Ouf, ça y est, celle-là. Eh bien, le chemin qui construit l'artiste et qui vous donne à entendre dans votre écriture, on a le sentiment en vous lisant, et peut-être c'est juste notre imagination qui fait ça également, que cela vous questionne vous-même autant qu'artiste et écrivaine lorsque vous êtes en train d'écrire. Est-ce que vous vous sentez aussi, vous posez cette question de quel chemin vous étiez en train de faire lorsque vous avez décidé d'écrire ce livre et que vous étiez en train de le faire ?
Dans le roman, on projette forcément plus ou moins consciemment des questionnements qui sont les siens. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait dans son personnage ou de cette rencontre entre ces deux artistes, c'est le personnage de Lana Del Rey, justement, parce que c'est... Elle n'est pas née, Lana Del Rey, c'est Elizabeth Grant qui a construit ces personnages sur scène très voluptueux, très un peu vamp, un peu lynchienne. Pourquoi elle se réfugie derrière elle? Et ce n'est pas propre à Lana Del Rey, c'est propre à la plupart des grands artistes. Bob Dylan n'est pas né Bob Dylan. David Bowie, Lady Gaga, ce sont des pseudonymes. Donc il y a quelque chose dans, en effet, de la construction. Et c'est plutôt ça qui m'intéressait chez elle, de creuser comment on passe d'une... une jeune fille qui chante dans la chorale de l'école catholique à Lana Del Rey. Et là, il y a beaucoup de choses à explorer sur cette construction de personnage. Ça m'intéressait beaucoup, plus que l'après, la célébrité, même si c'est un peu abordé dans le livre. Mais voilà. Et puis, on peut imaginer beaucoup de choses sur ce qui fait qu'une jeune fille va oser aller jusque-là. Et tous les tâtonnements, quand on voit les images aussi d'archives, quand elle passe de... la jeune fille, elle cherche son look aussi. Il y a une transformation physique qui est intéressante. Et puis, d'avoir ce personnage-là permet aussi d'avoir une vie derrière. On peut imaginer qu'elle se protège aussi derrière.
Et vous, finalement, alors dans votre chemin d'artiste, votre parcours d'écrivaine, est-ce que tout en écrivant comme ça sur la vie d'une personne comme elle, est-ce que ça pose question sur votre propre cheminement ?
Assez différent, parce que quand on est écrivain, on n'est pas dans la lumière, comme on est plutôt caché derrière son ordinateur. On aime bien ça en général.
Mais vous aviez l'écriture en commun.
Oui, c'est vrai. Peut-être dans les sources d'inspiration, ce qui m'a intéressé aussi dans sa poésie, c'est la capacité qu'ont peut-être tous les artistes ou qu'on essaye de développer à rêver, à se laisser emporter par l'imaginaire, à être un peu dans la sérendipité, comme on dit, ce moment où on rêvasse, et puis il y a quelque chose qui va nous inspirer pour un récit. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est l'inspiration? Est-ce que c'est le hasard? Ça se cultive aussi, ce n'est pas forcément évident d'avoir cette capacité-là quand, par ailleurs, on a un métier qui nous plonge dans l'actualité et l'horreur du monde au quotidien. Mmh. Et ce qui est vrai pour tout un chacun, puisqu'on est aussi plongé dans ça. Donc, oui, ça, c'est intéressant. C'est peut-être ce qu'il y a de commun que tous les artistes ont en commun, tous ceux qui essayent de créer.
On va démarrer le livre avec un très beau moment, justement, cette peinture qui vous a inspiré à un moment donné. Vous avez imaginé comment ça s'est passé, parce que quand on lit votre livre, on découvre bien sûr que vous êtes documenté, vous avez lu pas mal de choses, donc... Est-ce que vous avez lu les choses et après vous avez laissé votre imagination créer, ou est-ce que vous vous êtes vraiment aussi donné la possibilité d'exploiter précisément des sources que vous avez obtenues ?
Oui, si on rentre dans la mécanique de l'écriture, il y a en effet toute la ressource documentaire. Il y a beaucoup de livres sur Joan Baez, beaucoup de choses, un peu moins sur Lana Del Rey, mais il y a ces textes ses poèmes où elle parle d'elle de façon réelle ou imaginaire, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, je me suis basée plus sur ça pour elle. J'avais cette espèce de trame avec leur chronologie à toutes les deux. Et après, à partir de cette chronologie, le roman s'insinue dans leur quotidien, dans ce qu'elles ont pu vivre, dans les dialogues. Voilà, donc y a rien de... je ne les ai pas envoyées dans des endroits ou des pays où elles ne sont pas allées. Mais en tout cas, voilà, c'est cet exercice-là du roman inspiré d'eux. Mais voilà, donc en effet, il y a eu ce gros travail documentaire au début. Et puis, ce qui était plaisant pour Lana Del Rey, c'est qu'elle-même, comme je disais, déjà quelque part un personnage de fiction. Donc c'est plus facile, c'était plus facile de se baser sur elle, de tout ce qu'elle a créé, tout son imaginaire qui est très très fort, de s'en inspirer pour en faire un personnage.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que là vous êtes en train de travailler sur des personnes, vous êtes en train de romancer des personnes qui sont là aujourd'hui.
C'est vrai que c'était une question aussi qu'on s'est posée dans Les Audacieuses. Les autres romans des Audacieuses sont sur des femmes mortes. C'est plus facile de faire un roman sur des personnes qui ne sont plus là, et il y en a beaucoup. Et alors, parce qu'on se dit elles sont pas là pour le lire et pour dire qu'est-ce que c'est que ce roman. Et en même temps, pour une collection qui s'appelait Les Audacieuses, je me suis dit si on a peur de parler de personnages réels, on est un peu à côté de la plaque. Mais c'est vrai que c'était une question. Après, on s'est dit on est dans la liberté du roman. Il y a dans tout ce qui est biographique, ce sont des faits qui sont connus de tout le monde. Il y a rien de j'aurais été beaucoup plus mal à l'aise de faire une biographie non autorisée avec des infos scoopiques de Press People. C'est pas le cas. Là, ce sera un autre exercice que la journaliste aurait eu du mal. Mais voilà, donc là, on est assez dans le roman, c'est assumé comme tel. Et à partir du moment où je crois qu'il y a cet accord aussi avec le lecteur, voilà, on est dans la liberté de la création aussi, puisque c'est le sujet du livre.
Et cette création commence dans l'enfance de Lana Del Rey. Bon, on va dire Lana Del Rey, mais là, en ce moment-là, elle est Lizzie, hein, elle est Elizabeth Grant, dans sa famille. Et on va comprendre tout de suite que c'est un enfant quand même particulier, avec une sensibilité particulière. Elle a un ami qu'elle va rencontrer aussi à des moments qui ne sont pas attendus quand les enfants jouent ensemble. Enfant, déjà, elle avait une démarche et une façon d'être qui laissait pas indifférent, on va dire. Mais peut-être poser des questions aussi aux gens qui l'entouraient. Et on a l'impression vraiment que sa sensibilité la plongeait pas mal dans la solitude, y compris quand elle était enfant.
Ça, c'est vraiment des choses qu'elle a racontées, que oui, elle était déjà, elle chantait très très bien, donc elle passait pas complètement inaperçue. Et elle se posait beaucoup de questions très jeunes sur la vie, sur la mort, des choses assez sombres qui l'habitaient déjà et qui l'habitent toujours. Enfin, on voit ça, donc elle avait déjà ça, elle aurait dit dans son enfance. Donc après, tout le jeu du livre, c'est d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour une petite fille, une jeune fille, d'être habitée par ces questions-là. Ça met forcément peut-être un petit peu à côté des autres. En tout cas, elle avait déjà évidemment cette sensibilité de futur artiste.
Et là, vous avez peut-être imaginé, ou pas, mais une rencontre qui va la marquer profondément à un moment donné dans cette enfance. C'est une image qui est difficile pour un enfant, de voir quelqu'un qui est dans une situation, on va dire, d'échéance dans l'espace public. C'est quelque chose qui l'a marqué et qui l'a accompagné. Et c'est un peu révélateur, en fait, de ces démons qui vont très rapidement apparaître, notamment au travers de l'alcool, qui elle commence à consommer très, très jeune, enfant, chez elle.
Oui, elle a eu une phase alcoolique assez jeune, dont elle est sortie assez jeune aussi, mais qui forcément l'a marqué. Et là où la romancière s'est amusée, c'est que elle dit beaucoup, Lana Del Rey, qu'elle est inspirée de David Lynch, qu'elle aime son univers. Elle en met beaucoup dans son personnage sur scène, donc je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai mis des choses de la vie de David Lynch dans son enfance. Donc à un moment, elle voit une femme un peu vaporeuse, un peu presque comme un fantôme dans les rues, et cette figure de femme la marque. On peut y voir beaucoup de choses, c'est presque un symbole. Ça, c'est David Lynch, lui. C'est lui qui l'a vu, en fait. Donc, il y a des petites choses comme ça que je me suis plus qu'elle... voilà, je l'ai pris au pied de la lettre. Je me suis amusée avec ça.
Oui, oui, oui. On voit qu'il y a pas mal de David Lynch là-dedans. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez bien, d'un autre passage qui est très Twin Peaks, n'est-ce pas Alors, il y a aussi cette rencontre que vous avez voulu mettre en avant et vous appuyer pour pouvoir révéler des choses. On voit bien que la rencontre avec Joan Baez, c'était une chose, une chose très, très importante et pour la continuité de sa carrière et aussi avant que, dans tous les rêves de musique qu'elle avait, ça alimentait. Elle avait un oncle qui l'a appris à jouer de la guitare alors qu'elle avait déjà toute sa poésie et sa belle voix. Et lui, c'est lui aussi qui parlait de Joan Baez et qui parlait notamment d'une chanson en particulier qu'il aimait beaucoup. Pourquoi est-ce que pour vous, cette rencontre était quelque chose de charnière et très importante à l'intérieur de ce roman ?
C'est comme je disais au début, le fait que Joan Baez l'ait peint et accepté de chanter avec elle sur scène. Il y a eu d'autres choses après le livre d'ailleurs, parce qu'il y a un documentaire sur Joan Baez qui vient de sortir, où Lana Del Rey lui tend le micro, font les interviews. Donc il y a une forme d'amitié, en tout cas une relation entre ces deux femmes, qui à première vue peut paraître étonnante, parce qu'on peut imaginer qu'elles n'ont rien à voir. Entre d'un côté une pop star un peu dans le... entre guillemets, dans le star system, si on s'arrête à une première lecture, se dire qu'elle est dans l'apparence, dans le féminin. Joan Baez, elle est dans l'engagement. Elle a eu des choses très politiques, très très fortes. On peut se dire, mais elles ont rien en commun. Et en fait, si. Et elles sont devenues amies. Donc, ça dit des choses sur la profondeur de sa personne, le fait qu'elle ait voulu chanter avec elle sur scène. L'a amenée à son public qui ne la connaît pas parce qu'ils sont plus jeunes. Donc là, c'était, il y avait vraiment des choses intéressantes à creuser. Mais qu'est-ce qui a accroché ? De quoi elles se sont parlé ? C'est des créatrices toutes les deux qui sortent de leur case, l'une avec la poésie, l'une avec la peinture. Elles ont un propos sur les États-Unis assez critique, ce qui prend des formes très différentes. Voilà. Donc c'était, il y avait vraiment des choses à creuser sur, à imaginer ce qu'elles se sont dit. Sur leur rapport à la création toutes les deux, voilà. Donc là c'est du pain béni pour un romancier, une romancière, parce qu'on se dit voilà, qu'est-ce qui est le probable dans leurs échanges, même si évidemment on ne saura jamais puisqu'on n'était pas là.
Oui, c'est vrai, mais il y a le fait que, parce que vous présentez Joan Baez qui n'avait pas forcément envie d'avoir une connexion avec Lana Del Rey.
Surtout, c'était un moment où elle arrêtait de chanter, elle arrête sa dernière tournée. Son rapport à la voix un peu compliqué parce que sa voix a vieilli, mais on s'est dit là j'arrête de chanter, je deviens peintre, et puis il y a Lana Del Rey qui débarque à ce moment-là.
Mais c'est la découverte de sa poésie en fait qui a fait que finalement il y avait une possibilité pour qu'elles se rencontrent tous les deux. En fait, la poésie c'était le socle de leur rencontre, on peut dire d'une certaine manière.
Et probablement, et puis leurs échanges aussi sur la musique, sur la création.
Eh bien, donc, elles sont montées sur scène. Mais venons sur le livre, il s'appelle quand même La fille de Lake Placid. Lake Placid est un lieu, vraiment, vous nous racontez ce lieu sur le prisme familial de Lana. On voit que même dans tout le livre, ça accompagne. C'est un lieu d'ennui pour elle, non ?
C'est une petite ville américaine classique, un peu... on peut imaginer que tout adolescent, de toute façon, les adolescents s'ennuient toujours à un moment dans leur ville natale, qu'elle ait vécu ça. C'est très beau en même temps, mais elle rêvait de New York.
Oui, c'est pas loin de New York en plus.
Oui, c'est pas loin de New York. Donc il y a l'attraction de New York, forcément, où elle finira par aller. Et en même temps, c'est les forêts, le lac, tout cet univers lynchien déjà, quelque part, qui l'entourait.
Oui, qu'elle aime, ça oui, mais c'est les rapports en fait entre les gens, la façon comme ils vivent leur quotidien et l'étroitesse, on va dire, intellectuelle pour certains, qui est compliquée pour elle aussi, parce que devenir artiste, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se libérer d'un certain nombre de carcans, c'est ce qu'on va percevoir, comment elle va faire ce chemin, et finalement, à un moment donné, lorsqu'elle a réussi à faire des belles choses déjà, elle va avoir un retour, notamment des échanges avec certains de ce village, de son village d'enfance, qui sont un peu déceptifs. C'est ce que vous avez imaginé.
Oui, après, c'est ce qu'on devine aussi à travers ses chansons et son regard critique, à la fois critique, en même temps nostalgique, sur une Amérique qui existe, qui n'existe pas, cette Amérique aussi des petites villes, cette Amérique californienne pour une partie de ses chansons. Donc, il y a tout ce rapport-là à l'enfance qui est... là aussi qu'on peut assez facilement projeter quand on parle de l'adolescence et du regard qu'on a sur là d'où on vient, qui est toujours à la fois une nostalgie, en même temps on est parti, il y a des bonnes raisons, et peut-être qu'après on grandit, on voit les choses différemment.
Si on revient donc sur son addiction à l'alcool, celle-là va l'éloigner de sa famille. À un moment donné, elle va se retrouver dans une espèce d'internat, elle va passer quelques temps justement. C'est une façon aussi pour qu'elle puisse maîtriser, peut-être apprendre à maîtriser cette grande envie de se plonger dans l'alcool, qui est pour elle finalement aussi une manière d'entrevoir, percevoir le monde. Alors, il faut boire, mais à la juste mesure finalement. C'est parce qu'elle a fini par se faire avoir qu'elle se trouvait dans une situation difficile. Mais jusque-là aussi, l'alcool, elle a peut-être quelque chose de révélateur dans sa poésie. Ce n'est pas complètement à bannir, si j'ose dire, même si elle a fait des gros efforts pour pouvoir le faire, parce que quand l'addiction est là, on n'a pas le choix. Mais on va voir aussi qu'elle a une grande addiction pour le milkshake. Vous mettez des milkshakes partout. On a tous envie d'aller au dîner pour boire un milkshake. Franchement, à la fin, je n'en pouvais plus. Je me suis levée, je suis allée chercher une boule de glace. J'ai mis dans mon mixeur avec un peu de lait et j'ai bu. Parce que là, c'était vraiment cette ambiance dîner et tout ça que vous restituez tellement, de manière tellement chouette. Pourquoi une fixation sur le milkshake comme ça? C'est elle qui aime ou c'est vous?
Ah, ça fait un peu partie de tout que vous disiez, cet imaginaire, cette imagerie qu'il y a dans ses chansons, des diners américains, les sièges en vinyle, en sky, les burgers, les moments où elle raconte qu'elle est serveuse dans un endroit comme ça. C'est un peu sa mythologie à elle. Et là, on est à la frontière entre sa mythologie à elle, la mythologie de son personnage, et ce qu'il y a dans ses chansons. Elle dit « I », elle chante « I, je », mais on ne sait jamais si c'est elle ou si c'est d'autres, et c'est ce qui est intéressant. Ça a servi vraiment de matière au roman, à créer tout cet univers-là d'imagerie américaine que nous, on a aussi. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que toutes ces images sur les États-Unis, on les a, nous, par les films, par cette espèce de bouillon de culture qu'on a tous, New York, les taxis jaunes, tout ça qu'il y a aussi dans ses chansons, dans son univers, dans ses clips, qui fait, je pense, qui explique aussi pourquoi elle a frappé quand elle est arrivée, parce que dans ses clips, il y avait toutes ces images-là, à la fois nostalgiques, cette Amérique, la Californie, New York, qui parlent au-delà des frontières, au-delà des États-Unis aussi.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette chose magnifique de voir comment c'est compliqué, finalement, pour une personne avec une telle sensibilité, une vraie poétesse qui est en train de se découvrir, d'éclore, de traverser des chemins, d'avoir ou pas des opportunités de pouvoir faire des choses. Alors, elle a dû vraiment passer par beaucoup de mutations pour en arriver là où elle est. Parfois, elle a tapé dans le mille, mais pas tant que ça. Vous avez raconté qu'elle a fait une espèce d'année de césure pour faire des petits boulots. Donc, elle a beaucoup travaillé, notamment dans un dîner, comme vous venez de dire. Elle avait aussi une relation... comment dire, intéressante avec les hommes, parce que c'est une femme pulpeuse, un peu séductrice malgré elle ou grâce à elle, je ne sais pas comment le dire, mais donc je voulais en venir sur le fait que toutes ces mutations, elle a vécu parfois avec enthousiasme mais souvent avec peine. C'est pas facile en fait de devenir artiste, si j'ose dire, dans ces conditions-là dans lesquelles on accorde sa confiance et souvent on se fait trahir aussi, non?
Ce que je trouvais intéressant, c'est que on l'a tous connue, entre guillemets, quand elle a éclaté avec son clip Video Games. Tout d'un coup, elle est arrivée en 2011. Cette jeune femme très très belle, cette musique, c'est déjà un espèce de classique immédiat. Et il y a eu un espèce de backlash, comme on dit, de retour de bâton très très vite sur... elle est fake, elle n'existe pas, c'est une créature des labels, elle est toute refaite de partout. Des attaques sur son physique, sur son authenticité, aussi parce que c'était une jeune femme talentueuse, c'est toujours suspect. Alors qu'elle existait avant. Elle a tâtonné, elle a eu plusieurs pseudonymes, elle n'était pas Lana Del Rey tout de suite, elle a eu plusieurs looks, elle a chanté sur les petites scènes à New York, elle a fait des petits singles qui n'ont pas marché, et puis tout d'un coup, elle a marché. Donc c'était ce tâtonnement avant qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... il y a comme un papillon qui émerge, elle trouve une figure qui lui parle, elle a trouvé les bonnes personnes avec qui travailler, mais elle n'a jamais été la créature d'autres. Peut-être été une co-création, parce que quand on travaille avec d'autres... Mais elle a mis du temps à trouver des personnes avec qui... Donc voilà, il y avait aussi cette idée de... c'est immonde, c'est ce qui lui est arrivé dans la figure de... Elle n'existe pas, elle est fake. C'est un peu l'effet des meutes sur les réseaux sociaux, où tout d'un coup, on s'acharne sur quelqu'un, on oublie qu'il y a une vraie personne derrière, une vraie artiste, elle s'est pris ça dans la figure. Donc je trouvais intéressant de creuser avant ces tâtonnements sur scène, quand elle n'était pas connue, où elle-même dit elle faisait des études de philosophie, en même temps elle chantait, elle cherchait un peu son look, elle faisait ses singles, elle errait un peu dans New York, elle allait boire des milkshakes, elle a dû dire ça quelque part, écouter ça quelque part. Et puis ces moments d'errance, elle dit ouais, je me baladais, là je me suis prêtée à imaginer, à l'imaginer glisser d'un monde à l'autre comme ça, ce moment où elle commence à faire ses singles avec des producteurs, en même temps elle est étudiante, elle habite dans une caravane. Voilà, c'était ça qui m'intéressait plus dans sa biographie que l'après.
Mais revenons quand même sur cette histoire des journalistes. Parce que bah, vous êtes écrivaine, vous êtes aussi journaliste, hein, vous collaborez avec le journal Le Monde. Eh bien là, ce qui se passe avec elle, la façon comme elle se fait à la fois vraiment gagner une puissance au travers des éloges des journalistes durant un certain temps, puis la grande chute, les journalistes, parce qu'en plus, elle a l'audace d'accepter des interviews, de raconter un peu sa vie, etc. Et elle apprend très rapidement que ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. C'était un peu savoureux pour vous, non, de raconter comme ça une presse pas très, comment dirais-je, pas très... Enfin,
bah, oui, j'écris sur l'économie européenne, donc je me sens assez éloignée de la presse People, un autre univers. Mais c'était, oui, bah, c'est vrai qu'on retrouve des articles... où il y a énormément de clichés, ça c'est savoureux, de la biche effarouchée, tous les clichés sur une jeune femme belle qu'elle s'est pris dans la figure, comme si elle n'était pas réelle. En même temps, elle n'était pas complètement réelle, puisque c'est un personnage, donc c'est assez ambigu, ambivalent. Et puis, bon, c'était pas que la presse hein, qui l'a attaquée, et puis
les réseaux
sociaux qui n'ont pas cessé de l'encenser et de voir l'artiste qu'elle était. Mais oui, c'est toujours intéressant de voir que... La presse n'est pas exempte de tomber dans les clichés et de se tromper. Et heureusement, certains ne se sont pas trompés et ont vu tout de suite que voilà, c'était, elle allait marquer l'histoire de la musique américaine, et pas que.
Je l'imagine en train de savourer. Je vais mettre ça, tiens, pour mes potes journalistes de presse, people. Justement, venons à l'écriture en elle-même. On sent vraiment que vous êtes complètement... dans cet univers, vous êtes plongé dans cet univers, vous faites corps avec tout ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, vous avez choisi des extraits de musique, etc., que vous mettez entre des passages. C'est très, très beau, donc vous faites un fil comme ça de cette vie de cet artiste qui est en train de devenir. C'était différent de l'écriture de ce que vous avez déjà fait précédemment pour vous ?
Oui, parce que mes précédents romans sont... la plupart ont une part, on parle d'événements historiques, sont dans le passé, où il y a toujours un rapport avec l'histoire, revisité avec des personnages habités. Les précédents parlent beaucoup de forêt, de nature. Il y a aussi ça dans ce livre-là, parce que c'est des questions qui m'habitent très fort. Mais c'est vrai que c'était un exercice différent, au sens où déjà c'était presque une commande, puisque ça répondait à une collection, à un cahier des charges, un roman sur une figure qui existe. Donc au début, je me disais, mais comment je vais faire pour justement oser le roman sur des personnes qui existent. Et en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup dans avec ma casquette d'écrivain, c'est d'essayer des nouvelles choses, de jamais essayer toujours. C'est un moteur pour moi d'écriture dans les romans. Dans Les Danseurs de l'Aube, le défi, c'était d'écrire sur la danse, d'écrire sur un mouvement. Dans Les Mangeurs de Nuit, c'était de faire parler les forêts. Et là, c'est une commande. Tu dois faire un roman sur des personnes qui existent. Saute ce cap-là, ose la fiction. Donc, évidemment, j'ai lu des fictions qui ont été faites sur Marilyn Monroe, pour voir comment on fait. Alors, comme je disais, c'est plus facile quand la personne est morte. Là, elles sont vivantes. Mais je me suis dit, allez, osons et essayons de faire ça avec l'idée. Ce qui m'a plu aussi dans cette collection, c'est que c'est un hommage à ces figures-là. C'est évidemment l'idée de les faire découvrir, de les mettre en avant. Et là, j'avais à cœur de mettre en avant ces textes à elle. C'est pour ça qu'il y en a par qui égrène le roman pour dire voilà ce qu'elle écrit. Et comme son livre de poésie a été traduit en français, c'était un plaisir de mettre en avant sa poésie, qui je pense est peu connue. Donc oui, c'était un exercice très différent. Et le fait d'avoir un cadre, une contrainte, c'est aussi intéressant. C'est pas comme les romans où on part, on a la liberté totale. Là, avoir un cadre de contrainte, c'est un autre exercice encore. Mais ça m'a plu.
On va voir dans la partie dans laquelle elle n'est pas encore l'artiste confirmée d'aujourd'hui, que le moment où elle a fait des petits boulots, vous avez choisi, imaginé sûrement un passage dans lequel, en faisant les petits boulots, elle va à la rencontre d'une femme, la femme à la bûche. Je n'en dis pas plus, mais c'est très, très Twin Peaks, là. On est chez David Lynch, là. Comment vous avez choisi ce passage? Parce que franchement, là, on est dans un truc... C'est quand même très original, quoi.
Alors, elle parle en effet, même dans ses chansons, de cette année où elle est serveuse. Et comme elle parle beaucoup de David Lynch, qui l'inspire dans son personnage, dans ses chansons, il y a plusieurs moments du roman où je me suis dit, c'est ça, je la prends au pied de la lettre, je mets du David Lynch dans sa vie. Et j'adore Twin Peaks. C'est pour moi une série qui a marqué là aussi l'histoire de la fiction. Les séries après et les films après Twin Peaks n'ont pas été les mêmes. On retrouve des références partout. Et là où je me suis amusée, c'est que si on prend son clip Video Game, c'est de la pop culture au sens où il y a plein de références qui nous parlent d'une façon ou d'une autre. Les châteaux d'eau, des gamins qui font du skate. On a l'impression que c'est vraiment de la pop culture au sens où plein de références. Et là, j'ai fait un peu ça avec le livre en me disant, elle est ça. Je vais mettre les références à Twin Peaks. Il y a beaucoup d'autres références que j'ai eu à cœur de ne pas non plus faire un livre pour initier. Si on les comprend pas, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres. Et là, la femme à la bûche, oui, là, c'est complètement transparent. C'est un personnage tellement étrange dans Twin Peaks. C'est une dame qui se promène avec une bûche qui lui parle comme si c'était un chien ou un enfant. Et cette bûche, c'est assez... Au fur et à mesure de la série, on commence à dire, mais cette bûche a des pouvoirs...
Qui amène la bûche au dîner, justement,
qui l'amène avec elle. Donc, je me suis amusée à la faire Lana rencontrer cette femme qui lui propose un petit boulot d'amener sa bûche, de la sortir sa bûche quand elle ne peut pas, quoi.
Alors là, franchement, vous allez... Enfin, si vous n'avez pas encore lu le livre, vous allez découvrir, vous allez lire ce passage, ça va vous faire sourire, quoi, parce que vous venez d'entendre...
Comme elle-même a dit, c'est là où je dis, j'ai fait tout un tas de petits boulots très bizarres dans ma vie. Je dis, petit boulot très bizarre, qu'est-ce qu'on va trouver de bizarre à la femme à la bûche? Voilà.
Génial. Est-ce que lorsque vous étiez en train d'écrire ce roman, vous étiez en train, par exemple, je ne sais pas, là vous allez nous raconter un peu votre univers quand vous écrivez, est-ce que vous étiez en train d'écouter Lana Del Rey chanter ou John Baez ou les milkshakes? On a compris que vous étiez en train de boire de milkshakes, ça c'est sûr.
C'était plus la lecture de leurs textes et de ces textes à elles, vraiment pour...
Un peu comme des livres de chevet.
C'est ça, et vraiment avec l'idée de puiser ce que je pouvais mettre dans son... comme je disais, même si c'est un roman, c'est assumé comme tel, mais de piocher un maximum de choses dans ses chansons. Donc quand elle dit qu'elle est serveuse, il y a une chanson où elle parle de ça, j'ai fait des scènes à partir de cette chanson-là. Il y a dans sa poésie, elle parle d'une voyante qui lui parle de comment positionner son énergie sur scène, son rapport aux autres. J'ai mis cette scène-là, j'en ai fait une scène du livre. Donc il y a, on ne sait pas dans ses chansons ce qui est vrai, ce qui est imaginaire, parce que on ne sait jamais. C'est le secret des créations des artistes. Mais du coup, j'ai fait des scènes à partir de ce qu'elle raconte, sans savoir si c'est vrai ou pas, peu importe, puisqu'on est dans le roman, mais avec l'idée de coller à ce personnage qu'elle-même crée dans ses chansons. Donc c'était, il y a beaucoup de choses dans ses poèmes, beaucoup de petites anecdotes. Son recueil s'appelle Violette sur l'herbe à la renverse. Donc il fallait que dans le livre il y ait une scène avec des violettes à un moment où ça lui parle les parfums. Voilà. Donc c'est vraiment nourri de ces chansons à plein de petits égards, de petites anecdotes.
C'est magnifique. Non mais c'est vrai en plus. Et là, nous sommes en train de parler, lorsque vous avez écrit, est-ce que vous avez beaucoup écrit et après vous étiez en train de faire comme quand on fait un film de montage pour pouvoir parvenir à ce résultat que nous connaissons depuis le 5 janvier? Ou bien le livre est tel quel depuis le début de l'écriture? Vous avez travaillé comment? Vous étiez obligé de couper des choses? Comment ça se passe?
Il y a toujours du travail et du retravail. Le livre parfait du premier jet n'existe pas. Les auteurs qui disent ça mentent. ça n'existe pas. Sinon, il n'y aurait pas d'éditeur et sinon, il n'y aurait pas enfin, vraiment...
Mais peut-être que vous auriez pu faire partie de cette catégorie qui dit non, c'est bon, je l'ai fait de premier coup, ça a été... Non,
non
ce n'est pas votre genre.
Tous les auteurs travaillent soit tout seuls, soit avec leur éditeur, soit avec leur premier lecteur. Certains disent que c'est leur femme, d'autres c'est un ami. Bref. Et là, alors, très concrètement, moi, je travaille beaucoup avec des plans. Donc là, comme il y a deux narrations, il y a sa rencontre avec John Baez et puis son enfance qui avance en parallèle. Je construis beaucoup avec des plans, avec l'idée que quand on passe de l'un à l'autre, c'est jamais artificiel, il y a des échos, ça se répond, on suit une suite logique. Et puis, comme j'avais leur chronologie à elle, pour que ça corresponde aux faits, aux grandes dates. Donc il y a ça, et puis après, j'ai retravaillé, et puis après, il y a des idées qui sont venues. Tiens, je pourrais rajouter des extraits de ses chansons, des extraits de ses textes, des extraits de quelques phrases de David Lynch, avec l'idée que chaque fois, ça rajoute, ça met un autre éclairage, un écho, qu'on comprenne. Voilà, donc il y a travail, retravail. Et puis, il y a un moment aussi, l'éditrice, évidemment, qui intervient, qui relit, qui dit ça, ces errances dans New York, on adore, tu peux en rajouter un petit peu. Ce qu'elle m'a fait enlever, c'était qu'il y a des moments où la journaliste venait dans le livre un peu trop, où j'adore Joan Baez et ses engagements, et j'avais envie de raconter des scènes où... ce qu'elle a fait, les endroits où elle est allée, ce moment où elle raconte qu'elle est restée dans des endroits bombardés, qu'elle a écrit des chansons très très longues. Donc, moi, on dit, mais là, t'en mets un peu trop, peut-être sur Joan Baez, parce que t'as envie d'en parler comme une journaliste. Là, on est dans le roman. Donc, ça, c'est le travail intéressant avec l'éditrice, où on n'est pas toujours d'accord. Voilà, on discute, on dit, oui, c'est vrai, là, peut-être. Voilà. Ça pourrait être sans fin un travail sur un texte.
Oui, oui. Et ça vous a pris beaucoup de temps pour l'écrire, celui-ci ?
Celui-là était peut-être plus rapide que les autres à écrire, précisément parce qu'il y avait ce cahier des charges très, très clair au début, contrairement au Mangeur de nuit, où j'ai fait énormément de recherches très, très, très larges et que j'ai resserré. Là, les recherches, dès le départ, étaient plus resserrées. Je savais exactement, du coup, ce que je voulais raconter.
Alliez,
dès que je me suis arrêtée sur leur rencontre.
Ouais,
oui,
le sujet, ça y est, vous étiez dedans. Eh bien... Est-ce que vous avez eu déjà des retours par rapport à des personnes autres que votre comité restreint à propos du livre ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Parce qu'en plus, dans un roman, là, la particularité, c'est qu'effectivement, Lana Del Rey continue de chanter. Hein, elle va venir en France, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le jour de mon anniversaire, elle va jouer à Paris. Ah ouais ? Ma fille, elle aimerait bien m'inviter, hein, parce que c'est une grande fan de Lana Del Rey. C'est complet. Elle ne peut pas m'amener. Elle m'a dit, va essayer la liste d'attente. C'est comme ça. Mais ce que je voulais dire, la particularité, c'est que les romanciers, ils disent, eh bien, le personnage, il est encore là, il est auprès de moi. Et bien là, pour le coup, en effet, si vous prenez un ticket, vous pouvez l'avoir. Donc, est-ce que vous avez eu à la fois des gens qui vous ont dit des choses, que vous baignez encore dans cette ambiance et que ces personnages que vous n'avez pas spécialement créés parce qu'elles existent, sont autour de vous, parce que ça fait un mois qu'il est parmi nous, votre livre.
Il y a deux choses. Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont lu, qui ne la connaissaient pas forcément ou qui n'étaient pas forcément fans et qui ont aimé le livre. Et ça, c'est merveilleux parce que l'idée, c'est que ce n'est pas un livre pour initier. C'est un vrai roman avec l'idée qu'on puisse rentrer dedans et les prendre comme des personnages sans forcément connaître ou... de près. Et donc il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, ah mais je les connaissais pas du tout, mais j'adorais le livre. Donc ça, j'étais contente. Et à l'inverse, je me suis dit, ah mais des fans, des gros fans, peut-être qu'ils vont se dire, mais là je retrouve pas, ça va trop loin dans la fiction. Ça aussi c'était une angoisse. Je me disais, mais peut-être des fans vont me jeter des pierres, vont dire, mais comment vous osez parler de Lana Del Rey, c'est pas une biographie stricto sensu. En même temps, j'ai l'impression de plutôt lui rendre hommage, mais comme tout livre qui parle d'une personne, d'une personnalité, il peut. Donc j'ai eu quelques fans qui m'ont dit merci parce que on la retrouve. C'est un hommage en effet. Il y a rien de. C'est plutôt une façon de la faire découvrir. Donc quelque part j'étais touchée que et des personnes qui ne la connaissent pas et des personnes qui l'apprécient aiment le livre parce qu'on se dit bon ça va, je suis pas trop à côté de la plaque. Après. Des lecteurs peuvent passer à côté, c'est la vie aussi des romans. Et puis c'est vrai qu'à un moment, il échappe. Et puis il y a toujours ce moment où des personnes voient des choses qu'on n'a pas vues, nous, dans le livre, parce qu'on le romancier projette, mais les lecteurs aussi projettent des choses. Et c'est là où le livre, quand on dit le livre nous importe plus, il y a vraiment ça. À un moment, on se dit, bah tiens, il y a des choses que j'ai pas vues, ou j'ai pas. Ils sont un peu à l'insu de mon plein gré dans le livre, parce qu'il y a l'apport d'entrée sur la création, sur la sororité quelque part, même si ce mot est un petit peu maintenant partout, mais qu'il peut y avoir entre elles. Il y a l'histoire de. Sa petite fille, il y a John Bess qui suit sur ses pas, il y a ses enfants qui sont là, enfin, qui sont juste mentionnés dans le livre. Donc voilà, en tout cas, il y a une de nôtre de mes craintes, c'est que ce livre est un pas de côté par rapport à ce que je fais normalement, mes romans à l'Observatoire, qui sont, comme je disais, plutôt dans l'histoire, avec des thématiques lourdes. Là, c'est un pas de côté pour cette collection. Donc on se dit, mais peut-être qu'il y a des lecteurs qui vont dire, mais qu'est-ce que ça n'a plus rien à voir, elle est devenue complètement folle. Et non, ceux qui ont aimé Les Mangeurs de Nuit, qui sont dans les forêts canadiennes, dans la nature, disent, ah ben, on retrouve ça, on n'est pas perdu, c'est cohérent, on comprend ces figures de femmes, elles sont déjà dans d'autres de tes livres. Donc là aussi, ça m'a rassurée, je me suis dit, ça va, je n'ai pas trop perdu les quelques lecteurs qui aiment mes livres.
Non, oui, c'est vrai qu'on va retrouver cette Amérique dans votre écriture, alors qu'il soit la forêt, Lake Placid, la jungle avec le béton de New York et la douceur du soleil, le sable de Malibu. C'est très, très chouette. On voyage avec vous. Hein. Il y a même un passage en Europe. Alors, autant dire qu'effectivement, on va un peu partout. Mais tout à l'heure, je pose deux questions en même temps. Hein. Vous avez déjà aperçu. J'ai parlé de cette histoire de personnages qui restent avec nous pendant un certain temps. Enfin, en tout cas, les écrivains et écrivaines parfois témoignent de ça au sortir d'une publication. Est-ce que vous avez ce sentiment? Parce que là, c'est particulier, du coup.
Il y a beaucoup d'images qui me reviennent de moments quand on écrit. C'est aussi un voyage intérieur où un des moments sans faire des choses un peu j'étais possédée. Voilà. Mais il y a quand même des moments où on vit des scènes très très fortes. On vibre des moments un peu, voilà, on est vraiment avec les personnages, donc parfois ça me revient et c'est assez plaisant, c'est presque comme un voyage qu'on a fait, on a les souvenirs qui reviennent, et en même temps je suis déjà aussi dans le roman d'après, puisque quand le roman sort, on est déjà dans autre chose, et en même temps il y a toujours des échos d'un livre à l'autre, donc je suis aussi dans les personnages d'après, et en même temps j'ai voilà, ces scènes, la femme à la bûche, je l'ai vraiment vécu moi aussi, là, les scènes avec elle. Ou ces moments où elle se promène dans New York, voilà, qui se greffent aussi parfois sur des souvenirs de ce que évidemment j'ai pu voir moi à New York. Donc oui, c'est des scènes qui restent très très fortes.
Okay. Oui, ça aide de connaître les géographies pour pouvoir écrire et parler de cela. Vous n'avez pas eu un voyage exprès pour parler sur Lana Del Rey. Ce sont des lieux que vous connaissiez, peut-être pas tous, mais en partie.
Là, à New York, oui, il y a des endroits où j'ai pu passer. Souvent, je vais dans les endroits quand je peux pour mes livres. Là, je suis pas allée à Lake Placid, pour le coup, puisque je voulais que ça reste aussi dans son imaginaire d'enfance et pas quelque chose de très, très descriptif.
Combien même, et on va en témoigner dans votre livre, parfois on arrive quelque part, et bah, c'est plus tout à fait comme on espérait. C'est un peu ce qu'elle va vivre aussi quand elle va aller chercher un lieu précis dans le livre que je ne vous dirai pas. Non, c'est pas la peine de me regarder comme ça, je ne vous dirai pas. Eh bien, on va continuer. Juste quand même, vous n'avez pas dit tout, pris contact ni avec Lana Del Rey, ni avec Jean Baez, durant l'écriture de ce livre aussi.
Non, parce que comme c'est un roman est vraiment assumé comme tel et pas une biographie qui sera un exercice très différent, on leur a envoyé après pour évidemment qu'elles sachent, qu'elles soient au courant, qu'elles soient informées par soit directement, soit par leur agent. Ça nous paraissait normal, mais pas vraiment pas un exercice de biographie stricto sensu. Donc voilà, c'est un roman.
Mais vous auriez pu juste avoir envie, en fait. Non, ça vous a pas chatouillé?
Je crois que ça aurait été vraiment un exercice différent. On serait basculé vraiment dans la biographie ou un livre autre chose. Et là, ouais. c'était pas le...
Oui, ça aurait pu ouvrir une porte que...
On serait passé dans un exercice peut-être plus purement journalistique,
ouais,
et autre chose. Et ça, j'aurais pas eu envie parce que moi, quand je suis journaliste, j'écris sur l'économie européenne.
Donc, vous avez fait comme David Lynch. Vous avez laissé la boîte fermée et la clé à côté, quoi.
C'est exactement ça. Et David Lynch m'a beaucoup inspirée dans ce qu'il écrit sur la méditation, sur ses processus créatifs, sur s'est plongé comme plongé au fond de la mer. Et alors lui, il est très, très perché, il faut quand même le dire. Quand il parle de la méditation, il dit, voilà, la méditation, ça aide à plonger. Et plus on sait le faire, et plus on va attraper des gros poissons dans la mer qui est l'imaginaire. Donc, quand on le lit, ça m'a aidé d'oser le roman aussi. Parce que ça part tellement loin dans une forme de... pas de folie, parce que ce serait un peu cliché, mais de liberté, de lâcher, d'aller piocher des choses, de laisser explorer les échos. C'est pour ça que La femme à la bûche, elle arrive à un moment, parce que j'étais vraiment aussi dans David Lynch pour m'aider à aller chercher du côté de l'imaginaire et de...
Mais ce qui a beaucoup servi votre relation avec Lana Del Rey dans ce livre, parce qu'il y a vraiment quelque chose en touchant métaphysique là, quand vous commencez à rentrer vraiment dans l'intimité imagée de cette jeune femme, vous saisissez quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous nous donnez vraiment la possibilité de percevoir ce devenir d'artiste qui est en train de faire là, la chrysalide qui devient papillon petit à petit. Il fallait quand même y aller chercher quelque part, puiser très fortement de vos entrailles, si j'ose dire.
Oui, est-ce que moi j'en ai perçu et forcément ce que j'en projette aussi, ce qu'on peut imaginer en la voyant évoluer au fil des ans.
Et maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, là, elle va venir jouer à Paris, 21 août, hein, elle joue à Paris. C'est le jour de mon anniversaire, c'est difficile à oublier quand même. Et est-ce que ça vous donnerait envie de la rencontrer dans ce cadre-là? Je ne sais pas, moi, vous savez, j'ai écrit un roman sur vous, quoi. Enfin, genre...
Je ne suis pas sûre.
Ouais.
Ça reste un roman, donc... je ne sais pas, et puis peut-être qu'elle détesterait le livre, d'ailleurs.
Vous serez déçue de la rencontrer
peut-être,
pour
c'est
de
vraiment
vrai.
L'idée de l'écrivain qui va rencontrer son personnage.
Ouais.
On a un peu peur de se dire...
Oui, c'est vrai. Il y a certains qui n'ont pas cette chance, ils sont obligés d'aller au Père Lachaise. Mais là, pour le coup, là, vous avez...
On peut communiquer au Père Lachaise avec son personnage.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Certains communiquent avec Jim Morrison tous les jours, il y en a.
C'est vrai, mais la réponse, c'est un peu Lynch, quand même. Eh bien, on va continuer peut-être aussi dans les projets que vous avez. Vous avez parlé de... Le livre, il sort maintenant, là, c'est le roman, c'est devenir artiste. Vous êtes un artiste. Et pour vous, ce roman, il fait peut-être une marche pour la chose qui vient après. Est-ce que vous avez fait peut-être un processus, a changé quelque chose pour les projets à venir, vous pensez?
Alors, comme je disais, c'est un pas de côté par rapport à mes romans que je fais en parallèle à l'Observatoire, qui sont vraiment mes principaux... principaux bébés, création, je veux dire. Mais ce que j'aime, ce que je disais tout à l'heure, dans chaque roman, j'essaye déjà de ne pas me répéter, parce que quand on a les mangeurs de nuit ont bien marché, donc un piège, ça pourrait d'essayer de faire la même chose. Donc, l'idée, c'est que chaque fois d'essayer quelque chose de différent, chaque fois d'apprendre quelque chose sur l'écriture, sur ce qu'on peut faire, sur le fond, sur la forme. Et avec celui-ci, j'ai appris d'autres choses sur le... sur comment insérer de la poésie dans un texte, par exemple, comment, comme David Lynch, plonger à l'intérieur de soi pour aller attraper des poissons. Enfin, voilà, on apprend toujours, et c'est ce que je trouve très enthousiasmant dans l'écriture romancière, c'est d'apprendre. Dans mes premiers romans, c'était très dans l'imaginaire. À un moment, je me suis dit, mais hey, t'es journaliste, tu sais faire des recherches. Mais des recherches, mais de plus en plus. Et donc, il y a un moment où aussi la journaliste s'est invitée au sens où mettre du réel. Dans les livres, plus être dans l'imaginaire pur, mais s'ancrer dans des histoires, dans des contextes, et de plus en plus, j'aime ça, mais peut-être qu'après, ce sera autre chose. Donc, à chaque livre, j'essaye de progresser, pour dire les choses plus simplement, d'apprendre des nouvelles choses, de mettre au défi, de réussir quelque chose dans le prochain. Ce sera d'ancrer l'histoire un peu plus dans un seul lieu, plutôt que de voyager partout, à droite, à gauche, parce que c'est plus facile de créer du mouvement et du rythme quand on bouge. C'est plus difficile quand on reste au même endroit que je lui dis, tiens, essaye ça. De ne pas être dans l'astuce d'envoyer tes personnages en road trip. Comment créer du mouvement en étant un peu plus statique? Donc voilà, donc à chaque fois, j'essaye.
Donc vous êtes votre propre laboratoire en tant qu'artiste. Vous faites vraiment des expériences artistiques pour continuer d'accompagner ce parcours, enfin de faire ce parcours.
Et d'apprendre et d'essayer. Et puis peut-être ça m'a moins marché. Donc je dis, ça, je sais moins faire. Où il faut que je travaille ça et de travailler parce que c'est un peu Ce que c'est plaisant dans l'écriture, c'est qu'on est toujours face à la métaphore de remettre l'ouvrage 100 fois sur le métier. Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Il y a vraiment de ça, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve face à son ordinateur, à une page blanche. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'essaye? Qu'est-ce qui va être le moteur de quelle histoire va me prendre? Et qu'est-ce que je vais apprendre aussi?
Vous avez beaucoup d'envie, d'histoire. Est-ce que le champ il est vaste devant vous?
Oui, c'est ce qui est toujours enthousiasmant, c'est de dire il y a plein de sources d'inspiration. Qu'est-ce qui, sur quoi on va s'arrêter? Et mon problème, c'est plutôt de m'arrêter un moment parce que dès qu'on commence à faire des recherches, on a beaucoup d'histoires qui remontent, qui inspirent des choses, qui nourrissent les personnages. Et à un moment, il ne faut pas mettre trop d'histoires dans l'histoire, ce qui est un peu ma tendance.
Tout à l'heure, vous allez animer une autre rencontre dans laquelle vous allez parler d'autres livres. Justement, quelle lectrice vous êtes? Là, on a compris qu'il y a eu vraiment ce livre de poésie de Lana Del Rey qui était une source d'inspiration pour trouver votre fil et puis aller vers ce projet. Mais par ailleurs, qu'est-ce que vous lisez?
Je suis plus inspirée par la littérature américaine parce que il y a cette, chez beaucoup d'auteurs, il y a des auteurs français qui font ça aussi, mais cette capacité à mêler la petite histoire à la grande histoire et à faire des page-turners, je ne sais pas comment on dit en français, des romans prenants sur des histoires qu'on ne lirait pas dans un livre d'histoire. Je prends un exemple d'un livre que j'aime beaucoup parce que ça, pour moi, c'était une révélation. C'est un livre qui s'appelle Middlesex de Geoffrey Eugenides, qui est vraiment cette école d'écrivains qui nous crée un récit où on a envie de savoir. Il parle d'un adolescent qui a des problèmes qui se cherchent finalement. Et puis, il parle de ses grands-parents et de toute l'histoire de sa famille, qui est l'histoire de l'émigration grecque qui arrive aux États-Unis à Détroit, qui a participé à la naissance, puis au déclin de l'industrie automobile à Détroit. C'est passionnant. Ça m'intéresse l'histoire de l'industrie automobile à Détroit par ma casquette de journaliste. Mais sans ça, je ne serais pas allée autant dans le détail. Et lui, il en fait un livre où on a envie de savoir pourquoi ses grands-parents sont arrivés là, qu'est-ce qu'il y a le rapport avec. Et cette histoire à mêler cette capacité à mêler les histoires, la grande histoire, la petite histoire, les narrations, et en même temps, c'est un vrai récit, il y a une vraie intrigue. Je trouve que c'est une façon de respecter les lecteurs, de leur dire je vais t'apprendre des choses, je vais aussi te faire une intrigue. Il y a ça souvent dans les polars aussi. On va se plonger dans un milieu où on ne connaît rien, médical ou spécialisé, et en même temps, on a une vraie intrigue, on a envie de savoir. Je trouve que c'est très difficile à faire et ça m'inspire beaucoup en tant que lectrice et du coup j'essaye aussi de faire un peu ça dans mes livres, je crois, modestement.
On peut dire quand même que c'est très réussi, n'est-ce pas? Parce que vraiment c'est un plaisir de la découvrir au travers de la lecture. Marie Charelle, franchement, la fille de Lake Placid, quoi. Il faut le lire, clairement, hein, c'est trop bien. Est-ce que vous avez envie? On a encore un tout petit peu de temps, quelques instants. Est-ce que vous accepteriez de lire une petite page ou deux de votre roman pour terminer cette rencontre en toute beauté, en lecture, au festival littéraire? On parle des livres, mais on peut aussi les lire un petit peu. Vous accepteriez de nous faire une lecture?
On peut, sauf si quelqu'un a des questions, on peut aussi.
On va basculer lecture, dans la lecture. Oh.
Elles ont acté, mais pas de réaction particulière. Voilà. Puis je pense que un petit roman dans une petite maison d'édition française, je pense qu'elles en foutent un peu. Je voudrais pas dire ça, mais je crois que c'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous voulez lire? Ok.
Je vais juste lire quelques petits instants du début, comme ça ne dévoile rien de la suite, qui est le moment où j'ai imaginé ce qu'a donné ce tableau donc, qui existe. Vous pouvez trouver sur Internet. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur le site de Joan Baez. Il y a tous les portraits qu'elle a faits. C'est très émouvant, je trouve, de la voir devenir peintre comme ça. Et donc, il y a le portrait de Lana Del Rey. Donc, j'ai imaginé la scène où elle l'a peint. Peindre est une affaire de lumière et cette fille-là capte les éclats de soleil comme aucune autre créature terrestre. L'astre du jour dessine des cascades d'or dans sa chevelure et sème des paillettes sur le rebondi de ses joues. Des clartés étranges flottent autour de ses courbes. craindre est aussi une affaire d'ombre et derrière chacun de ses sourires, la nuit est aux aguets. Cette fille-là vibre d'une mélancolie douloureuse et d'une sérénité douce à la fois. Capter ce vertige sera sa quête. Par où commencer ? Chaque œuvre est un nouveau monde à bâtir, un défi exigeant de ne jamais rien tenir pour acquis. Elle redresse le panneau de bois, ferme les yeux pour laisser la douceur aurorale entrer en elle. Il s'agit de voir ce qui est, ce qui n'est pas, de se mesurer à l'invisible. Elle apprend encore, même à 78 ans passés. Elle débute par le fond sans s'encombrer des détails. L'orphelie l'appelle, mais elle a d'autres projets. Elle ne fait pas de croquis préparatoires, jamais, parce qu'elle a peur de l'échec. Elle s'en remet à l'instinct. Et celui-ci lui souffre que quelque chose est de trop. Elle attrape un chiffon, la lance à son modèle, le maquillage efface. Celle-ci obéit, frotte le coin de ses paupières. Elle la toise un instant avec défi. Les mondes qu'elle porte en elle fascinent et attirent l'artiste. Elle est l'une de ces voyageuses de passage que cette dernière accepte parfois d'accueillir dans le refuge qu'elle s'est bâti loin des villes. Peindre est une affaire de couleur et cette fois, l'équilibre est parfait. Or de l'aube, pourpre de la nuit retirant sa traîne, émeraude de la végétation. Le modèle frémit, déesse forte et douce, petite fille altière. Autour d'elle, le jardin prend son souffle avant la chaleur écrasante de la journée. Les fourmis tâtent les rosées de la nuit accrochées aux herbes hautes. Les fleurs se redressent. Le frémissement des ailes d'un oiseau brasse l'air embaumé de jasmin. L'artiste fronce les sourcils. Le modèle bat des paupières, une minute ailleurs, car quelques mots lui viennent à l'esprit. Soit l'œuvre du souffle sacré, soit l'âme que le monde habite. Ces phrases sont les siennes. Elle ne les a pas seulement écrites, elle les vit. Elles sont sa chair, ses soupirs, son rêve. Seuls ceux qui la connaissent savent qu'elle n'est pas une poupée factice forgée par les satrapes du marketing, une étoile éphémère et creuse. Non, elle est poétesse. Je suis née avec dans mon âme un petit morceau de paradis, comme un phénix, une traînée blanche dans le ciel, une longueur d'onde que personne ne vient chercher. Une poétesse avant d'être une musicienne, de la même façon que la femme qui se tient en face d'elle est peintre avant d'être chanteuse et bien plus encore. Une créatrice aux identités multiples, sans limites, libre, une fille du vent. Rien ne les énie plus que cela à cet instant, la liberté.
Magnifique. Je viens d'attraper une carpe. Nous allons terminer et clore cette partie de pêche collective avec vous, Marie-Charelle. Merci infiniment pour le bonheur de cette rencontre, honneur avec vous. Ce n'est pas terminé parce que la séance de dédicace, vous savez, elle va se tenir au stand de la librairie Mouche, donc en sortant de la bibliothèque à votre droite. Je vous invite fortement. Je sais que c'est un moment que tout le monde raffole. Évidemment, vous allez avoir le plaisir de partir chez vous avec le livre, avec une dédicace et en plus passer quelques instants tête à tête avec l'artiste. C'est super. Merci infiniment de votre venue. Merci à vous
d'être venu.
Très bon festival à toutes et à tous. Merci de votre écoute. À bientôt.